Nous sommes avec Marie-Ève des Apatrides Anonymes qui va nous parler du délit de solidarité en France et de Trump et des villes sanctuaires.
Oui, deux sujets assez d'actualité, on peut le dire. Concernant le délit de solidarité en France, avant de rentrer, de vous expliquer en fait pourquoi je parle de ça, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le délit de solidarité. En fait, c'est une expression qui n'existe pas comme telle dans aucun texte de loi à proprement dit. C'est une expression qui est apparue la première fois dans l'espace public en France en 2009, à mesure que des associations se sont mis à révéler là, l'augmentation d'affaires où des militants ou militantes bénévoles étaient dans le trouble, si on veut, pour être venus en aide à des sans-papiers. Donc, il y a plusieurs milliers de personnes qui, à l'époque, s'étaient proclamées délinquants solidaires et qui interpellaient donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale de l'époque pour obtenir la suppression de ce qui se ramène à un délit de solidarité, en fait. Le délit de solidarité comme tel se retrouve dans un article du CCEDA, c'est-à-dire c'est le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En fait, l'article prévoit 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour toute personne qui aura par aide, j'ouvre les guillemets, qui aura par aide directe ou indirecte facilité l'entrée. Faciliter ou tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Donc ça, c'est vraiment tel que c'est écrit dans le code de loi. En 2012, au lendemain de l'élection des socialistes, ils ont révisé cet article-là du CCEDA pour un peu assouplir les règles et élargir les clauses d'immunité. Par exemple, des proches d'un conjoint ou de la conjointe d'une personne migrante peuvent plus être poursuivis si elles procurent une aide de séjour, une aide au séjour régulier, donc qui serait pas dit illégal. Mais c'est surtout l'alinéa 3 qui est assoupli la règle, c'est-à-dire que, pour résumer, c'est quand l'acte reproché a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu paiement, en fait, que ce soit pour fournir des conseils juridiques, de la bouffe, de l'hébergement, des soins médicaux, en fait, tout ce qui est destiné à assurer des conditions de vie dignes et décentes, ou toute personne visant à aider à préserver la dignité ou l'intégrité physique, d'une personne. Donc, dans ce cadre-là, aucune poursuite juridique ne peut être engagée, sauf que le problème, c'est que ça ne concerne que l'aide au séjour et non l'aide à l'entrée et à la circulation. Donc, transporter gratuitement un ou une réfugiée, une personne sans papier, est toujours passible de poursuite. Entre 2009 et 2012, les poursuites ont beaucoup diminué, mais depuis 2014, elles semblent en recrudescence, comme vont en témoigner les cas dont je vais vous parler. Le plus récent, c'est le cas de Cédric Héroux, un homme de 37 ans qui a comparu au tribunal de Nice sur la Côte d'Azur pour des accusations d'avoir facilité l'entrée sur le territoire national, la circulation et la présence irrégulière de 200 étrangers dépourvus de titre de séjour. Ça, c'est l'accusation officielle. Le procureur a requis 8 mois de prison avec sursis, une mise à l'épreuve à l'usage limité de son permis de conduire pendant ses horaires de travail et confiscation de sa fourgonnette. Faut dire que M. Héroux est agriculteur dans la vallée de Roya, qui se trouve être une région, une petite vallée qui est à cheval entre la France et l'Italie. Il est aussi poursuivi pour avoir ouvert un camp illégal, guillemets, de 57 migrants dans un bâtiment de la SNCF, qui est la compagnie de train nationale française. Donc, comme je le disais, M. Héroux est agriculteur. Depuis des années, il voyait arriver, évidemment, dans la vallée. Il y a plusieurs personnes migrantes qui tentent de joindre le nord de l'Europe et qui arrivent donc par l'Italie, qui se retrouve un peu coincé dans cette vallée-là. Donc, sur le terrain, près de, ben, sur lequel se retrouve sa maison. Il a décidé, en fait, d'aider des personnes migrantes qu'il croisait, soit en les hébergeant, en leur offrant à manger, en les soignant. Et il a aussi aidé à des personnes à rejoindre le nord de la France. Faut dire que Cédric Héroux est quand même pas le seul à faire preuve de solidarité dans la vallée. Depuis 2014, plusieurs citoyens qui sont touchés par tous ces hommes, ces femmes et ces enfants qui fuient des conditions difficiles, se sont mobilisés. Par exemple, dans un petit village, le village de Saorge, qui compte 300 habitants seulement, il y a une trentaine de migrants qui sont hébergés. Il y a beaucoup de gens, des gens, monsieur, madame, tout le monde, vraiment, tu sais, qui se rendent complices d'actions, complices avec un clin d'œil, évidemment, d'actions de solidarité, soit par des dons d'argent, des couvertures d'aliments, ou même en hébergeant des personnes. Il y a aussi eu, à la fin novembre, Pierre, un autre homme, professeur à Nice, qui, lui aussi, a subi un procès. Pour avoir également aidé trois personnes à gagner le nord de la France pour rejoindre l'Angleterre, qui lui-même s'est vu donc arrêté. D'autres antécédents avant ça, il y en a eu. Bon, en janvier 2016, un ancien militaire britannique qui a été jugé pour avoir transporté une fillette afghane de la jungle de Calais jusqu'au Royaume-Uni. Il a été poursuivi pour aide à la circulation. Et il a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et donc écopé d'une amende de 1000 euros. Donc ça fait plusieurs cas comme ça dont on a entendu parler. Décembre 2015 également, Claire Marsol, une militante de 72 ans qui a été condamnée à 1500 euros d'amende pour avoir aidé également deux Érythréens à voyager. À être capable de prendre le train à la gare de Nice. Plus tôt en 2015 également, un militant d'un collectif d'aide aux sans-papiers a été poursuivi pour aide au séjour irrégulier parce qu'il faisait exécuter des tâches ménagères en contrepartie d'un hébergement qu'il offrait à une famille arménienne. Donc, le procureur a fini par abandonner les poursuites, mais c'est ce genre de solidarité-là qu'on juge criminelle, en fait. Présentement, il y a plusieurs personnes, évidemment, que ce soit des juristes, des militants, militantes, qui demandent l'abrogation du délit de solidarité, surtout pour les aidants qui le font gratuitement, ce qui empêcherait pas l'État à ce moment-là de continuer à lutter contre les filières de passeurs là, qui se remplissent les poches sur le dos des personnes migrantes qui tentent de traverser les frontières. D'autant plus que les citoyens, en plus, viennent souvent pallier une carence de la France et des autres États européens au niveau de l'accueil des personnes migrantes, des personnes réfugiées. Et en plus, si on considère le fait que à ce que je sache, le refus d'assistance à personne en danger est aussi passible de poursuite criminelle. Les deux articles de loi sont un peu contradictoires. Puis dans un contexte en plus de montée évidemment du racisme, des groupes d'extrême droite et des politiques en migration que adoptent plusieurs États, la seule solution reste la solidarité. D'ailleurs, on l'a vu, on le voit ces jours-ci avec les réactions de la population. Oui, aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde face au récent décret de Donald Trump pour limiter l'immigration sur son territoire, en sont vraiment la preuve éclatante. Ce qui m'amène d'ailleurs à parler de mon deuxième sujet, qui est Trump et les villes sanctuaires, parce que, bon, la criminalisation de la solidarité avec les sans-papiers n'est pas l'apanage de la France, loin de là. Bon, on a entendu parler là, de tous les décrets présidentiels que Trump a signés il y a à peu près 48 heures de ça. Un dont on a un peu moins parlé touche les villes sanctuaires, en fait. Dans son décret présidentiel, Trump s'attaque aux villes sanctuaires en ordonnant au département de la sécurité intérieure d'étudier ou en tout cas d'évaluer les moyens de réduire le financement des villes ou des collectivités qui ne signaleraient pas les personnes sans papiers aux autorités fédérales. Qu'est-ce qu'une ville sanctuaire? C'est aux États-Unis, il y en a 300 à peu près, qui sont répartis dans 25 États, et il y a 4 États, tous démocrates, qui sont entièrement sanctuarisés, c'est-à-dire Californie, Connecticut, Nouveau-Mexique et Colorado. Un choix qui a été décidé par nombre de municipalités sous l'administration Obama pour faire face à l'intensification des expulsions qui était de 2,5 millions entre 2009 et 2015. Donc, ces villes sanctuaires, ce sont des localités qui protègent les personnes sans papier en refusant de coopérer avec la police fédérale, qui est l'autorité aux États-Unis chargée de l'immigration. Donc, dans ces villes-là où c'est compté, les agents municipaux ont l'interdiction de vérifier le statut des habitants et des habitantes en regard de leur statut d'immigration. Par exemple, un policier qui serait appelé dans une maison pour une question de violence conjugale, par exemple, il n'est pas censé contrôler les titres de séjour. Ou par exemple, à l'école, les professeurs ne sont pas censés non plus contrôler les titres de séjour des élèves, et ainsi de suite. En 2015, le Congrès avait déjà essayé de faire adopter une loi pour couper les ressources des villes sanctuaires. Les démocrates avaient réussi à s'y opposer au Sénat, parce que le Congrès était contrôlé par les républicains. Cette fois-ci, l'administration Trump dépose de tous les leviers du pouvoir, donc ça regarde assez mal. Par exemple, si on prend une ville comme San Francisco, qui abrite quelques 44 000 personnes sans papier, San Francisco pourrait perdre 1 milliard de dollars sur un budget de 9,6 milliards. À New York, où la population de sans-papiers est estimée à peu près à un peu plus qu'un demi-million, l'aide fédérale, elle, s'élève à 6 milliards de dollars, soit 9 % du budget, dont l'essentiel est consacré à l'aide temporaire aux familles dans le besoin. Mais donc, ce qui est encourageant, c'est que malgré toutes ces menaces, il y a des centaines de collectivités qui se sont déclarées sanctuaires depuis l'élection de M. Trump, soit 26 villes de New York à Los Angeles ont affirmé leur engagement à rester des sanctuaires. Les maires de San Francisco, Seattle, Boston, Santa Fe, Denver, Washington et une dizaine d'autres villes ont exprimé leur refus de participer aux éventuelles déportations de personnes sans papier qui seraient ordonnées par Trump. Il y a le maire de New York qui est même allé, Bill de Blasio, qui est même allé jusqu'à assurer qu'il détruirait la banque de données où sont portés les noms des sans-papiers bénéficiant de cartes d'identité de la ville, ce qui leur permettrait d'ouvrir des comptes bancaires. Donc, il a dit qu'il détruirait donc ces registres-là si l'administration Trump cherchait à s'en emparer. En fait, la seule ville à ce jour qui a promis de coopérer avec le décret, c'est Miami, en Floride. Le maire a ordonné à ses prisons d'obéir aux demandes d'incarcération de personnes sans papier qui émanent des autorités fédérales. Si on regarde la Floride, c'est 650 000 personnes sans papier qui résident en Floride, majoritairement des hispaniques. Donc, à ce jour, quand même, que ce soit au niveau des populations elles-mêmes, mais aussi des institutions, c'est-à-dire des villes, les maires refusent quand même de collaborer avec, ou en tout cas de se conformer au décret de Donald Trump, ce qui, somme toute, donne un peu d'espoir en ces jours plutôt sombres. Peut-être en terminant, je vous inviterai peut-être à une vigile qui a lieu dans quelques minutes, en fait. Une vigile qui fait suite, qui a été appelée, évidemment, à la suite de la tuerie dans une mosquée de Québec hier. Donc, c'est une vigile qui a lieu à 18h au Métro-Parc. Et voilà. Donc, c'est important. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu de solidarité, de montrer ce qui est possible de faire et que des gens le font et brisent, sont prêts à aller contre la loi, en fait, pour manifester leur solidarité. Donc, et ça, l'être humain l'a fait de tout temps. Et j'espère qu'on verra ce genre de geste-là encore beaucoup dans les prochains mois.